Note de philosophie première par la Père Marie-Dominique Philippe, le 26 septembre 2001 à Saint-Judas.
On commence l'année au point de vue du cours sur la métaphysique. Je vous rappelle ce qu'est la métaphysique pour Aristote. Ce que la métaphysique pour nous, et ayez toujours dans votre cœur et dans votre intelligence l'encyclique du pape sur Fides et Ratio, puisque nous sommes chrétiens, puisque nous sommes dociles au Saint-Père, chrétiens et catholiques, on voit là que le Saint-Père lui-même intervient parce qu'il juge qu'il y a une grande faiblesse actuellement dans la formation des futurs prêtres pour les séminaristes. Une grande faiblesse aussi pour tous ceux qui doivent enseigner, c'est que on ne sait plus ce qui peut être assumé par la foi pour nous permettre d'avoir une pensée théologique correcte. Et l'Église, le Saint-Père affirme avec beaucoup de force ce qui était déjà affirmé par l'Église, par ses prédécesseurs, mais c'est dit d'une façon plus catégorique qu'il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Alors qu'il y avait tout un mouvement qui donnait le genre de métaphysique chrétienne comme la panacée universelle. C'est pas parce que je suis chrétien que je suis métaphysicien. Il y a des chrétiens qui n'ont aucun sens de la métaphysique. Ils sont chrétiens. Autrement dit, la foi ne me donne pas nécessairement une rectitude de l'intelligence. La rectitude dans mon intelligence, elle m'est laissée à moi-même. La foi m'aide, m'encourage, me dit qu'il faut aller dans ce sens-là. Et le Saint-Père montre comment une philosophie peut être au service de la foi. C'est peut-être ça qui est le plus intéressant pour nous. La foi. Tous les chrétiens ont la même foi. L'Église précise ce qu'est la foi. Il y a des conciles, le concile d'Orange entre autres, qui a précisé ce qu'était la foi. Et il faut bien se dire que toute philosophie, ce qu'on appelle philosophie, ne peut pas être assumé par la foi. Et le Saint-Père note avec beaucoup de précision les conditions nécessaires pour une philosophie réaliste de pouvoir être au service de la foi. Soit une philosophie qui cherche la vérité, condition sine qua non. Une philosophie qui ne cherche plus la vérité, qui est là uniquement pour être comme une espèce de, je ne sais pas, de manière de penser indépendamment de la vérité, ne peut pas être au service de la foi. Une rhétorique ne peut pas être au service de la foi. Une poésie ne peut pas être immédiatement au service de la foi. Ça peut être au service de la liturgie, mais par le moyen de la liturgie, c'est-à-dire par le moyen de la vertu. La vertu de religion, elle peut servir à la liturgie. Une musique peut devenir une musique chrétienne. Il peut y avoir une musique chrétienne, il peut y avoir un art chrétien, mais il n'y a pas de théologie chrétienne. Il n'y a pas, je veux dire, de philosophie chrétienne. C'est ce point-là qui me semble être le plus net dans l'enseignement de l'Église, qui n'a jamais été dit avec autant de netteté. Et c'est dit avec beaucoup de netteté parce que, justement, le courant d'une philosophie chrétienne était très fort et risqué de nous faire entrer dans le fidéisme. J'ai assisté qu'une seule fois à une audience de Pie XII, et Pie XII avait une intelligence très, très, très poussée. C'était net. Le grand danger aujourd'hui, c'est le fidéisme. C'est le danger, vous voyez, de voir se rapprocher des protestants, puisque Luther et Calvin, et surtout Calvin, disent que l'intelligence a été marquée par le péché originel. Et donc que notre intelligence est incapable par elle-même d'atteindre la foi, d'atteindre la vérité. Puisque notre intelligence est incapable par elle-même d'atteindre la vérité, il ne peut plus y avoir de théologie. Et c'est la foi qui rectifie mon intelligence, et il ne peut y avoir de philosophie qu'à partir de la foi. Ah, l'Église est très nette, et a toujours été très nette là-dessus. Dans une fois un dialogue que j'ai fait avec le pasteur Finet, c'est pas le père Finet, hein, le pasteur Finet était très, très ouvert, très désireux que l'accord soit parfait avec les catholiques, et où il y a eu un point de vue très très net, c'était ce point de vue-là. Est-ce que mon intelligence est encore capable d'atteindre les vérités? Et non, l'intelligence ne peut pas, elle est marquée par le péché. Et par ce fait même, elle ne peut être rectifiée que par la foi. Donc, pas de philosophie humaine. Il ne peut y avoir qu'une théologie. Alors, la théologie, coupée de la philosophie, ce n'est plus la théologie. S'il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus de théologie. Il n'y aura qu'une espèce de spiritualité, mais il n'y aura plus de théologie. Il n'y aura plus de vraie théologie. Donc, l'encyclique du Saint-Père, dès le point de départ de notre philosophie, donc, chaque année, je le rappelle, il faut que nous tous, nous la religions, et la relire chaque année, pour nous donner un zèle très particulier à la recherche philosophique, pour elle-même. Parce que s'il n'y a plus de recherche philosophique pour elle-même, il n'y aura plus de théologie. Tous les progrès que vous faites en philosophie vont servir en théologie. Plus votre intelligence a je dirais, la pénétration de la métaphysique, de l'être, plus votre théologie sera fine, aiguisée, pénétrante. Il faudrait quelquefois, mais ça serait surtout pour la théologie, mais c'est bon pour la philosophie aussi, montrer que certaines erreurs proviennent de la philosophie. Prenez l'hégélianisme. Hegel est sûrement un philosophe intelligent. Mais Hegel n'est pas catholique. Quand le grand spécialiste Hegel était venu au milieu de nous pour nous faire une conférence, il a pris, n'oublions pas, Hegel dit « Je suis luthérien » et on l'oublie. Et pratiquement, il agit comme un luthérien. C'est la foi qui me permet d'être philosophe. Et donc, théologie et philosophie ne font qu'un. La philosophie ne peut naître qu'à partir de la foi. Avant la foi, la philosophie, mon intelligence est incapable d'atteindre la vérité. Donc il n'y a plus de philosophie correcte cherchant la vérité avant la foi. Que génétiquement, pour vous, il est évident que vous avez été chrétien avant d'être philosophe. Il faut entrer à Saint-Jean pour faire de la philosophie pure et consacrer 3 ans ou 4 ans à la philosophie. Ça, c'est la grande originalité actuelle, hélas. Parce que quand on regarde le bagage philosophique d'un séminariste, c'est pas très lourd. Et le Saint-Père était désolé de voir qu'au fond, la philosophie est abandonnée. Il faut être à Saint-Jean pour faire de la philosophie sérieusement pendant 4 ans ou 3 ans avant la théologie. Alors, étant chrétien, ce que vous êtes, vous fassiez de la philosophie. Qu'un païen fasse de la philosophie aussi. Vous devriez vous rejoindre pour la pensée philosophique, la recherche de la vérité. Elle serait la même. Mais c'est bien évident que le chrétien est dans une situation, je dis bien une situation, c'est-à-dire une manière même de vivre, une manière même de faire de la philosophie, est bien dans une situation avantageuse pour le non-chrétien. Je sais que faire de la philosophie est la recherche de la vérité et une philosophie réaliste. Je sais que c'est nécessaire pour être un théologien. Le Saint-Père le dit. Puisque seule une philosophie réaliste peut être au service de la foi. Donc c'est absolument nécessaire de faire de la philosophie. C'est pour ça que le Saint-Père nous aime tant. C'est parce qu'on a un respect de la philosophie. Encore cette année-ci, quand je l'ai vu, il s'est retourné en partant et dit « Père Philippe, où en est la philosophie ?» C'est très touchant de voir combien le Saint-Père profondément reconnaît que faire de la philosophie comme chrétien, c'est sauver la théologie. Je ne peux pas faire de la théologie sans philosophie. C'est nécessaire. Et si la philosophie est plus pénétrante, elle permettra d'être une servante plus fidèle, plus habile, donc une meilleure servante de la foi. Oui, le théologien est grand théologien, bon serviteur de l'Église, par la qualité de sa foi et la qualité de son intelligence. Il faut les deux. Une petite Thérèse est merveilleuse pour la qualité de sa foi. Mais son intelligence, ah, elle ne s'est pas fourvoyée. Le dernier jour de sa vie, elle pouvait dire « J'ai toujours cherché la vérité ». C'est dans ce sens-là que je trouve ça très beau. J'ai toujours cherché la vérité. Comme petite carmélite. Vérité pratique, vérité spéculative. Et je fais de la philosophie pour chercher la vérité. Il faut rectifier le tir. Hein. Je fais de la philosophie pour chercher la vérité. Si j'ai déjà un bagage philosophique pour ceux qui entrent, bon, c'est possible qu'ils soient très forts en philosophie hegélienne. Ce sera d'autant plus difficile de faire de la philosophie aristotélicienne. Bien que Hegel reconnaisse que Aristote est le plus grand des philosophes. C'est intéressant, du reste, de se rappeler. Comme le monde est hegélien, on sait bien que la grande tentation d'aujourd'hui des théologiens, c'est d'être hegélien et de faire une nouvelle théologie à partir de Hegel. C'est la grande tentation. Ils ne le disent pas, mais on peut le saisir. Je me souviens, une fois j'avais dit au bon père dominicain qui faisait de la théologie, ça, c'est la tendance hegélienne. Vous êtes hegélien, il m'a répondu, je n'ai jamais rien lu d'Hegel. Donc c'est pas de Hegel. Oh, Hegel a saisi magnifiquement une tendance. C'est le père Chenu qui disait ça. Et on doit le connaître un peu, c'est nécessaire, pour ne pas se laisser prendre par tout un conditionnement humain qui est orienté vers ça. C'est comme, je ne peux pas faire une théologie à partir des mathématiques. Il y a une tendance aujourd'hui de ne plus penser que d'une manière mathématique. Même si on n'est pas très fort en mathématiques, il y a le milieu. Eh bien, il faut comprendre que je ne peux pas faire une théologie à partir des mathématiques. Pourquoi ? Parce que la théologie, avec son jugement de foi, touche directement l'être de Dieu. Quand je dis que je crois en Dieu qui me parle, je suis en contact direct avec Dieu. J'écoute. Or, je ne peux parler de l'être divin que si je connais l'être créé. La forme, l'être mathématique, implique un lien avec le point de vue quantitatif, divisible, et je ne peux pas atteindre l'acte de foi par les mathématiques. Les mathématiques ont beau être de plus en plus fines, de plus en plus pénétrantes comme être mathématique, mais l'être mathématique n'est pas assumable par la foi. Dès que pense l'être mathématique, il reste dans le possible. Il n'existe pas. C'est possible. Et je suis de plus en plus pris et conditionné par l'être mathématique. Et la réaction violente d'Aristote en face des mathématiques est très intéressante. Et la position inverse de Platon. Les mathématiques, c'est toujours très important pour bien situer. Parce que, je dirais, l'homme intelligent est premièrement un homme mathématique. C'est les mathématiques qui l'emportent. En premier lieu, c'est normal, c'est très bien. Ceux qui aiment beaucoup les mathématiques, tant mieux. Ça prouve que leur intelligence est déjà éveillée. Et c'est vrai, c'est toujours très intéressant de parler à un grand mathématicien. Le père Gérard des Lauriers, quand il faisait sa thèse au Sauchoir, chez les Dominicains, il était normalien. Et il fait sa thèse déjà dominicain. Quand je lui demandais, il y en a combien qui comprendront votre thèse? Alors il comptait très sérieusement. Je crois qu'il y en aura 3. Au monde. 3 ou 4 qui pourront comprendre. Les autres ne comprendront pas, mais ils diront que c'est très bien. Sans avoir compris. Parce qu'ils ne verront pas de faute. Alors ils restent. Mais la porte sera fermée. J'ai trouvé ça très, très symptomatique. On ne dira jamais ça en métaphysique. Mais tout homme qui réfléchit bien doit pouvoir comprendre ce qu'on dit au point de vue métaphysique. Mais la mathématique, c'est particulier. Et c'est bon de réfléchir sur ce qu'est l'être mathématique. Parce que nous avons un monde qui, de plus en plus, jusque dans l'éducation première, s'oriente vers le monde mathématique, l'être mathématique. Je connais un père de famille profondément intelligent qui m'a dit : je suis obligé de me remettre à faire des mathématiques pour pouvoir comprendre ce qu'on enseigne à mes enfants. Et il s'y remettait exprès aux mathématiques pour pouvoir comprendre ça. Si on est fort en mathématiques, très développé en mathématiques, tant mieux pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Mais il faut les dépasser en faisant de la métaphysique. Parce que tout part du jugement d'existence, ceci est. La métaphysique ne regarde pas le possible, elle regarde ce qui est. C'est la grosse différence. Dans les mathématiques, on regarde le possible. Il est possible de construire tel gratte-ciel. C'est possible. On peut le réaliser. L'homme est capable de réaliser ça. Les mathématiques permettent au développement humain de fabriquer de plus en plus des choses étonnantes. Et c'est pour ça que c'est très grisant au point de vue grandeur architecturale, au point de vue vitesse et rapidité des avions, des autos. Les mathématiques sont là et donnent une première base, et on ne peut pas échapper à cela. Et c'est très grisant, on comprend très bien, parce que ça commande tout le facere fait, réalisé. Donc, pour nous, en fidèles catholiques, nous appuyons sur fides et ratio. En tant qu'homme, je suis convaincu qu'être catholique développe l'homme, comme homme, en toute vérité. En tant qu'homme, mon intelligence est faite pour la métaphysique. Et je pèse les mots, je ne dis pas que mon intelligence est faite pour la métaphysique. Je ne dis pas que l'intelligence est faite pour les mathématiques. Mon intelligence humaine est faite pour la métaphysique. Donc j'essaie de comprendre en profondeur ma finalité. Ma finalité humaine. Parce que comprendre ce qui est pour l'homme, c'est comprendre sa propre finalité. Je dois pouvoir découvrir que, en tant qu'homme, faire de la métaphysique, c'est éveiller mon intelligence. C'est réveiller mon intelligence dans ce qu'elle a de plus profond. Les mathématiques ne développent pas l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, mais dans l'intelligence liée à une certaine forme d'imagination. Mon intelligence, qui de fait est lié aux réalités sensibles. J'ai un corps. Et le corps saisit d'abord les réalités sensibles. J'ai une intelligence qui se développe à partir de l'expérience. Mais mon expérience humaine peut très bien être une expérience qui demeure dans le quantitatif. La quantité joue un très grand rôle. Mon expérience humaine peut très bien rester liée à ce qu'on appelle la cogitative, pour les choses pratiques. Ma connaissance humaine peut très bien rester liée à l'art. Mon intelligence humaine peut très bien rester liée à l'affectivité. La connaissance affective humaine. Et mon intelligence humaine peut découvrir ce qu'il y a de propre à l'intelligence. L'intelligence comme intelligence. Donc, il y a multiples façons d'être intelligent. riche, intelligent, par mes mains. Je suis intelligent comme artiste. Je suis intelligent comme aimant profondément ce que j'aime, les hommes, l'amitié. Il faut être très intelligent pour garder l'amitié. Et des gens qui sont trop fixés sur eux-mêmes et pas si intelligents, toutes les amitiés avortent. Parce que de l'homme. Et jamais l'homme n'est fin d'un homme. Il n'y a que Dieu qui est ma fin. Il y a quelqu'un plus grand que moi, devant lequel je m'incline. Et très facilement, on se fait fin. Et on juge les hommes qui sont autour de nous, les personnes qui sont autour de nous, en fonction de nous. Et non pas en fonction de la vérité. Et c'est là la très grande purification, le dépassement de soi. La connaissance affective est réelle. C'est sûr que la connaissance affective joue un très grand rôle. Mais ce n'est pas l'intelligence toute pure. C'est l'intelligence liée à l'affectivité. Il y a des personnes qui ne peuvent pas dépasser le niveau de la connaissance affective. Et donc, elles ne cherchent plus la vérité pour elles-mêmes. Vous voyez, c'est bon de réfléchir sur ce point de vue-là, que mon intelligence humaine est liée à mon corps. C'est terrible, hein ? Mais c'est un fait. Je peux pas me séparer de ça. Mon intelligence est liée à mon corps. Mon intelligence est liée à ma main, à ce que je touche. Mon intelligence est liée à mon œil, ce que je vois. Elle est liée aussi à l'odorat. Elle est surtout liée à ce que j'entends et ce que je vois. Et mon intelligence pour elle-même, l'intelligence comme intelligence, oh. La métaphysique, c'est de découvrir que l'intelligence comme intelligence peut se développer. Il y a une possibilité d'aller plus loin que l'expérience. Toucher la table, il ne faut pas être très intelligent. Un gosse touche la table, il ne réfléchit pas beaucoup sur ce que c'est, mais déjà y réfléchir, cette table est en bois, a été faite par quelqu'un. Quand on était petit, on se demandait si les macaronis poussaient. Non, on s'aperçoit que les macaronis ne poussent pas, et c'est fait par les hommes. Une distinction très bête, mais qui est très primitive. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Qu'est-ce qui pousse? Le vivant, il pousse lui-même. Et au fond, l'homme aujourd'hui voudrait faire des moutons artificiellement. Il voudrait arriver à faire l'homme artificiellement. Toute l'humanité a envie de ça. Du moins, une partie de l'humanité scientifique a envie de ça. À tout prix, arriver à faire un homme. Ça pourrait être très touchant. Dieu doit sourire. Allez-y, cherchez. Je dois sourire. Parce que Dieu sait très bien qu'ils n'arriveront jamais à créer l'âme. Jamais un homme ne pourra créer l'âme. Alors qu'est-ce qu'il fera? Ah oui, il ramène l'homme au corps, alors il croit qu'il peut en faire. Arrive à en faire. Oui, l'humanité d'aujourd'hui est très intelligente, mais trop intelligente. Il croit trop à ses progrès scientifiques. Et c'est pour ça que la métaphysique est là pour rappeler à l'homme qui n'est pas créateur. L'être, c'est sacré. Tandis que les qualités, oh, l'homme va révéler. Et la vie, ah, oh, la vie. L'homme ne peut pas faire un vivant. Il peut singer, simuler ce qu'est la vie. Il peut faire des statues admirables, des figures merveilleuses. Et il voudrait que ça vive. Non, ça ne vit pas. Oui. Pour le début de la métaphysique, c'est très bon de voir tout ce que l'homme peut faire et tout ce qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est la première chose qu'il faut. C'est une manière merveilleuse d'entrer dans la métaphysique. Tout ce que l'homme peut faire n'est pas la métaphysique. La connaissance de cela relève des sciences. L'homme s'arrête à faire créer l'être, l'âme humaine. La métaphysique commence par la recherche de l'être, ce qui est en tant qu'il est. Cette découverte d'Aristote qui est merveilleuse, on n'a pas été plus loin, le to on et on. L'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être. Ce qui est en tant qu'il est. C'est la connaissance de ce qui est en tant qu'il est. Et ceci est nécessaire pour échapper aux mathématiciens. Quand vous vous situez dans ce qui est en tant qu'il est, vous regardez les mathématiques en disant « c'est très bien les mathématiques, mais ça n'atteint pas ce qui est en tant qu'il est ». Les mathématiques atteignent toujours un être possible, un être quantitatif. N'atteignent pas quelque chose qui est en dehors de la quantité. Alors, ça touche très profondément l'homme, puisque l'homme, par son corps, est lié à la quantité. Je suis lié au monde quantitatif, c'est sûr. Je m'en aperçois. J'essaie d'aller toujours plus vite. J'essaie d'aller toujours plus loin. J'essaie de briser la quantité. Et on brise la quantité par la vitesse. Et on brise la quantité en essayant de dépasser l'histoire. Je suis un être limité, et pourtant je suis. Je peux dire je suis, et je peux dire à mon voisin, tu es, et je suis. y a quelque chose qui me permet de dire je suis. Je suis un homme, je suis un homme qui pèse tant, un homme qui a cet âge, un homme, tout ça, oui, c'est les dimensions quantitatives et qualitatives. Je suis un homme intelligent puisque j'essaie de saisir ce qu'est l'être. Mon intelligence s'éveille en posant la question « qu'est-ce que l'être ?» Et c'est vrai, elle s'éveille en se posant cette question-là. Et en montrant que l'être n'est pas la quantité, n'est pas le temps, n'est pas le lieu, n'est pas la quantité. Que l'être... Qu'est-ce que c'est que l'être ? Tout ce que vous regardez en dehors de l'être vient après l'être. C'est un être quantifié, un être vivant. La vie n'est pas l'être. Il y a des réalités qui existent et qui ne vivent pas. Depuis la découverte tangible de la Lune, l'humanité a quelque chose de nouveau. Nous avons une connaissance de la Lune. Un homme est monté dans la Lune et a pu, par le fait même, connaître la Lune. Et comme l'humanité, je suis dedans, je peux me dire, notre humanité a connu la Lune et elle a cherché. Elle a vu dans la Lune, il n'y avait pas la vie. Alors l'homme a dit, c'est pas fait pour moi. Je peux bien aller dans la Lune comme curiosité, c'est très attrayant. On a tous eu envie d'aller dans la Lune quand on était gosse. C'est vrai, de la Lune, de regarder le grand-père, c'est quelque chose, hein. Mais on voit, c'est pas évitable. Il y en a qui ont été, qui sont revenus, d'autant plus vite. Parce que quand on y est, on se dit, est-ce qu'il faut revenir ? Comment revenir, hein ? C'est un exploit d'y aller, et c'est un autre exploit de redescendre. Parce que ça fait un petit saut assez extraordinaire. Notre humanité a connu un lieu où la vie n'était pas. C'est extraordinaire, ça, pour l'humanité, comme expérience humaine. Parce que mon expérience, la vie est toujours là. Je touche les réalités, je dis, c'est pas vivant. Ah, c'est pas vivant, attendez un petit peu, vous voyez un petit ver qui pousse. Ah. Vous savez bien, c'était... Au Moyen-Âge, ce qui se faisait en disant cette génération spontanée. Parce que quand on regardait de la boue et qu'on la laissait là, au bout d'un certain temps, il y avait quelque chose qui vivait dedans. C'est que la matière, pour nous, est une matière vivante. Une matière dans laquelle la vie se cache. Être en présence d'un monde où la vie n'existe pas, c'est glacial, ça. Aucune communion hors notre monde. Alors, notre monde devrait être encore beaucoup plus métaphysicien qu'avant, puisque nous avons cette expérience que les Grecs n'avaient pas. Car ils ne savaient pas. Est-ce que la découverte de la Lune augmente mon intuition métaphysique ? Ah ! Non. Mais elle me permet de dire, je cherche l'être en dehors de la vie. Or, une des grandes confusions constante, c'est de confondre le vivant et l'être, ce qui est l'être vivant. Parce que pour moi, tout ce que je touche, la vie est présente. La vie a été. Il y a le cadavre. Le cadavre est encore un vivant. La preuve, c'est qu'il change. Il se corrompt. Il faut un miracle pour qu'il ne se corrompt pas. Ça prouve que le monde dans lequel je suis est dévorant. Il ne me dévore pas parce que je lutte contre. Hein. Mais quand je ne lutterai plus, mon pauvre corps sera dévoré. La vie est terriblement accaparante. Elle dévore. Elle est immanente, elle prend tout. Or, une des grandes distinctions métaphysiques, dès le point de départ, je ne fais pas la métaphysique de la vie. Je fais la métaphysique de ce qui est en tant qu'il est. Le tuon éon. Ça c'est le génie d'Aristote d'avoir découvert ça, en face de Platon. Parce que Platon vit et être, hein, difficile à séparer dans Platon. Vie et être. Et on est plus naturellement platonicien. Et même si on a découvert l'aristotélisme quand on était jeune, à 45 ans, on redevient platonicien, ou 50 ans, si on ne fait pas grand effort de maintenir toujours en nous le point de vue de la métaphysique. Parce que spontanément, on est platonicien. On confond être et vie. Les deux choses se tiennent. Alors, c'est l'immanence de la vie qui domine. On est dans un monde d'immanence. On n'arrive plus à saisir ce qui est. Ce qui est, en tant qu'il est, c'est ça qui me fait comprendre l'autre. Ce qui est en tant que... celui qui vit à côté de moi, mais il vit, donc on a l'immanence. Mais en tant qu'il est, son être est propre. Et il respecte l'autre. Donc, il faut bien comprendre que la métaphysique n'est pas née spontanément. L'éclosion de la métaphysique a mis du temps. Je regarde la philosophie grecque, c'est l'intérêt de la philosophie grecque. Le début de la philosophie grecque, ce sont des poètes. Des poètes peuvent avoir le sens merveilleux de la qualité. C'est la poésie qui me donne ça. C'est l'artiste qui me donne le sens de la qualité. Des couleurs, le peintre, de la lumière, le peintre. J'ai le sens de la lumière. Mais la lumière me conduit à autre chose que la qualité. Est-ce que l'être est lumineux? Est-ce que la quantité est obscure? La lumière et la non-lumière, les ténèbres et le jour. J'ai mis du temps, et l'humanité a mis du temps, avant de découvrir la métaphysique. Il a fallu des circonstances extérieures étonnantes pour que ce phénomène grec de Platon et d'Aristote. Il y a eu un autre phénomène, encore infiniment plus grand, Pierre a porté son Dieu comme un être vivant au milieu d'elle. La richesse étonnante de notre petite planète, c'est que Dieu y a habité. Le vœu de toute l'humanité antérieure au christianisme était de voir un Dieu habiter auprès de nous dans un temple. Les temples étaient construits pour inviter au Dieu de venir. Et Dieu est venu, indépendamment de tous les temples, dans une crèche. C'est une gifle terrible à la pauvre humanité qui attendait Dieu dans les temples. Elle était persuadée que Dieu était dans les temples et que Dieu venait dans les temples. Il est venu dans les tables. C'est quand même assez curieux. Un phénomène chrétien. Le phénomène chrétien a mûri l'humanité d'une façon extraordinaire. L'humanité est arrivée par Marie, par Jésus, à quelque chose qui la dépasse complètement. Dieu est venu à côté de nous. Et s'il y a le phénomène grec merveilleux d'un Platon et d'un Aristote, c'est vrai, c'est un phénomène étonnant d'arriver à dire nous recherchons l'être en tant qu'être. Avant, ce n'avait pas été dit. Platon cherche les idées, Aristote cherche l'être en tant qu'être. Les mathématiques permettent de saisir l'idée en tant qu'idée. Mais l'être en tant qu'être, supérieur. Et le christianisme est venu, et le christianisme regarde Dieu au milieu des hommes. L'homme est fait non pas pour la recherche de l'être en tant qu'être, mais pour suivre Dieu. Et en suivant Dieu, elle se transforme. Et Dieu, ce n'est pas l'être en tant qu'être, c'est la réalité dans sa plénitude. La réalité, source de tous les autres êtres. Dieu. Je crois que les deux grands phénomènes de l'humanité, du côté de l'intelligence, c'est d'une part l'invention de la découverte de la métaphysique, l'être en tant qu'être. Et la philosophie moderne avec Hegel le dit, le redit à sa façon, que un philosophe comme Hegel dit « Le grand philosophe est Aristote », chapeau. Alors on dit, si on est intelligent, on dit « Ah, oh, c'est donc Aristote que je dois regarder. » Pour que Hegel dise ça, saint Thomas, c'est normal, c'est un saint, et Hegel. nous avons, nous, la chance que Hegel ait dit ça. Parce qu'on reconnaît la grandeur de Hegel. Je comprends très bien que Hegel soit très fort, un séduisant pour l'humanité, pour le philosophe. Il séduit d'extraordinaire. Il y a un livre qui vient de paraître d'un grand spécialiste de Hegel, bourgeois, où il montre l'intelligence hegelienne. L'intelligence pour Hegel, c'est tout. C'est tout. Aristote avait saisi ce que l'intelligence, en tant qu'intelligence, Hegel oublie, c'est que, en tant qu'intelligence, ce qui n'exclut pas l'existence du corps, et qui montre que nous saisissons une intelligence, mais pas l'intelligence. En étant intelligent, je saisis l'intelligence humaine, et je ne saisis pas directement l'intelligence de Dieu. Tandis que pour Hegel, en saisissant l'intelligence humaine, je saisis l'intelligence divine. Et toute son erreur est ça. Mais c'est beau. Dire en saisissant mon intelligence, je saisis l'intelligence de Dieu. C'est dangereux. Je me fais Dieu. Mais on voit comment Aristote peut avoir comme petit-fils bâtard Hegel, Noésis, Noéséos, la pensée de la pensée. Alors, ceci montre combien ce problème métaphysique est actuel. Je crois que Hegel, pour moi personnellement, c'est comme Platon. Et de Platon a servi à Aristote d'être vraiment ce qu'il a été. Il faut que Hegel nous permette, nous, d'être d'autant plus philosophe de l'être, avec toute l'humilité qu'il faut. Oui, pour vous montrer que c'est quand même le problème actuel. Hein. Si vous n'êtes pas aristotélicien, vous serez hegelien. Et si vous êtes hegelien, vous perdrez la foi. Si vous êtes aristotélicien, vous êtes au service de la foi.